Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce jeudi 15 octobre 2020, troisième jeudi du mois. C'est l'occasion aujourd'hui de retrouver l'émission mensuelle consacrée à l'histoire ouvrière, une émission réalisée depuis plusieurs saisons maintenant, en partenariat avec le GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois. Le GREMOS, aujourd'hui, sous une forme un peu particulière, puisqu'il s'agira d'une conférence publique qui s'est tenue il y a peu, c'était le 6 octobre dernier, à la Maison du Parc, maison du patrimoine et de la mesure à la Talaudière, une conférence que tenait Jean-Michel Stenner, enregistrée, sonorisée par l'équipe de Radio Dio. Les luttes ouvrières de la libération à la grande grève des mineurs 45-48, ce sera l'objet de cette émission aujourd'hui, retransmission de cette conférence donc, conduite par Jean-Michel Stenner, agrégé docteur en histoire, et qui présentait lors de cette conférence les luttes ouvrières qui ont jalonné la période allant de la libération à la grande grève des mineurs de 1948. Un petit partenariat avec la commune de la Talaudière qui, tout d'abord, mène tout un travail, un cycle autour des ondes et de la radio. Et oui, voilà, qui tombe plutôt bien. Une exposition qui est en cours du côté de la Maison du Patrimoine et de la Mesure. En tout cas, son initiative, c'est une expo dont le vernissage a eu lieu le 3 octobre dernier, visible actuellement. Jusqu'au 23 octobre prochain d'ailleurs, à la vitrine de la Talaudière, l'occasion de revenir sur l'histoire aussi des ondes, l'histoire de la radio. Cela tombe plutôt bien alors que nous sommes à quelques mois de l'anniversaire des radios libres, les 40 ans, pour exemple, des radios locales, radio libre en 2021. Un partenariat avec la Talaudière et puis cette initiative autour de la radio, on le disait, cette conférence qui s'est tenue le 6 octobre dernier, l'initiative de la Maison du Patrimoine et de la Mesure, avec cette conférence de Jean-Michel Stenner que vous allez retrouver d'ici un instant, qui a fait l'objet d'une captation, d'un enregistrement radiophonique par nos soins et qui est diffusé ce jour dans cette émission mensuelle du GREMOS sur le 895 de Dio et puis qui sera encore rediffusé via extrait ou par extrait lors d'ateliers d'écoute et d'ateliers podcast plus précisément qui se tiendront. Ce sera le 31 octobre prochain. Alors deux étapes d'ailleurs dans ce travail autour du podcast mené par la Talaudière, avec notamment ce samedi 17 octobre en matinée une séance de présentation des podcasts, tutoriels et écoutes d'extraits avant une séance d'écoute collective autour des luttes ouvrières et un travail de podcast en effet au travers de cette deuxième session en lien, vous allez l'entendre, avec l'exposition tout d'abord temporaire qui est présentée, on va en reparler d'ici un instant, sur le musée de la Talaudière, autour des luttes ouvrières, séance d'écoute et de podcast. Donc autour de ce thème, ce sera pour le 31 octobre prochain, là aussi en matinée dès 10h30, des séances gratuites. Vous pouvez bien entendu retrouver tout ce beau programme sur la Maison de la Mesure et du Patrimoine à la Talaudière. Les luttes ouvrières au cœur de tout un programme sur la commune de la Talaudière. La France est l'héritière d'une longue et riche histoire de mouvements sociaux. Cette expression naît durant la première moitié du 19e siècle, définie par les spécialistes comme étant toutes les interventions collectives destinées à transformer les conditions d'existence de leurs acteurs, à contester les hiérarchies ou les relations sociales et à générer pour cela des identités collectives et des sentiments d'appartenance. Les mouvements sociaux peuvent prendre des formes très diverses, comprenant les émeutes, les grèves, les pétitions, les cortèges et défilés, etc. La Talaudière invite le public à découvrir les mouvements sociaux et les luttes ouvrières par le prisme de l'exposition, du spectacle et du cinéma. Avec plusieurs rendez-vous proposés, notamment jusqu'à la fin de cette année 2020 et puis encore sur le printemps 2021. Tout d'abord, une exposition qui est visible depuis le 20 septembre dernier jusqu'au 18 décembre prochain. L'exposition portant sur 1948 et les mineurs en grève. Cela intervenait à l'occasion des Journées du patrimoine, les Journées européennes du patrimoine. À une exposition qui est visible toujours, donc je le disais, jusqu'à décembre prochain, en partenariat avec le GREMOS, puisque c'est en effet le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois, qui nous plonge au cœur de cette grande grève, l'une des grandes grèves du XXe siècle, celle de 48 donc, un travail réalisé en partenariat avec les archives municipales de Saint-Étienne, et puis surtout un travail photographique, puisque réalisé à partir des clichés exceptionnels de Léon Le Ponce. Octobre 48, les mineurs ligériens sont en grève. Cette expo avait été présentée il y a quelques années déjà à Saint-Étienne. Elle est revisitée d'ailleurs et a été retravaillée, remise à jour finalement. Et nous avions réalisé d'ailleurs des émissions spéciales à cette occasion. C'était il y a 5 ans sur le 895 de Dio et toujours dans ce même programme, dans cette émission du GREMOS, puisque là aussi cette grève a fait l'objet d'un ouvrage qui est toujours disponible. Dans le cadre de cette exposition, une conférence se tenait le 6 octobre dernier en présence de Jean-Michel Stenner, qui a très largement travaillé sur cette question, auteur de l'ouvrage 1948, les mineurs stéphanois en grève, et qui met en lumière les conflits sociaux d'après-guerre. Nous allons revenir sur cette conférence que l'on va vous proposer en rediffusion, retransmission, aujourd'hui dans cette émission spéciale. Juste auparavant, vous rappelez ces luttes ouvrières au cœur du programme de la commune de la Talaudière, avec là aussi une expo qui est toujours visible jusqu'au 27 novembre prochain à la vitrine de la Talaudière. Deux artistes peintres qui proposent via leurs deux univers distincts, singuliers, différents et qui amènent à réfléchir sur leur vision du travail. Voilà une expo qui est actuellement visible. Raconte-moi la mine. C'est un témoignage d'un ancien mineur qui pourra témoigner sur l'habitat minier, la vie quotidienne et le travail de fond, le travail du fond. Vous pouvez et vous pourrez suivre ces témoignages. Raconte-moi la mine, ce sera la Maison du patrimoine et de la mesure le 6 décembre prochain à 15h. L'entrée y est libre et gratuite. Autre rendez-vous, ce sera le 6 mars prochain, en 2021 donc, Les filles aux mains jaunes par Théâtre et compagnie, d'après Michel Bellier. C'est du théâtre et ce sera joué bien entendu sur la Talaudière au centre culturel Le Sou de cette même commune. Et puis encore un rendez-vous, un mouvement ouvrier important, celui qui a touché les LIP. C'est dans la région de Besançon bien sûr, avec la projection d'un film documentaire portant sur ce mouvement, sur cette histoire. Les LIP le 17 novembre prochain à 20h, là aussi séance gratuite. Et ça se déroulera sur la commune de la Talaudière et sur la bibliothèque. Plus précisément, vous avez toutes ces infos sur le programme de la commune en périphérie stéphanoise, la Talaudière. Vous pouvez aussi contacter la Maison du patrimoine et de la mesure qui est située rue du Stade, où se tient donc actuellement cette exposition portant sur les luttes ouvrières et la grande grève des mineurs de 48. Rue du Stade à la Talaudière, et un numéro de téléphone si vous souhaitez aussi avoir davantage d'informations et pour plus d'infos pratiques, c'est le 01 06 63 01 06 63, précédé du 04 77 bien entendu. Émission mensuelle GREMOS, on vous propose de retrouver donc cette conférence tenue le 6 octobre dernier. C'était au Centre culturel Le Sou, après déplacement géographique de dernière minute. Mais cette conférence a bel et bien pu se tenir en présence d'une quarantaine de personnes, ce qui est plutôt une belle assistance, belle affluence pour cette conférence qui a pu se tenir malgré les conditions sanitaires que l'on connaît. Conférence sur les luttes ouvrières de la libération à la grande grève des mineurs 45-48, avec Jean-Michel Stenner, donc agrégé docteur en histoire, qui revient sur cette question, sur cette grande grève des mineurs de 48 et sur ces luttes ouvrières qui ont jalonné cette période allant donc de la libération à cette grève des mineurs de 48. Jean-Michel Stenner, bien sûr, membre actif du GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois, qui fait l'objet de cette émission mensuelle sur 895 de Dio, le troisième jeudi de chaque mois, 12h, 19h, lendemain matinal dès 8h. On rappelle qu'il est également co-auteur de l'ouvrage 1948, les mineurs stéphanois en grève. Voilà, il va mettre en lumière les conflits sociaux d'après-guerre. On vous propose de suivre cette conférence d'ici un instant sur le 895 de Dion. On remercie encore Jean-Michel Stenner, Karen Pétel et toute l'équipe de la Maison du Patrimoine et de la Mesure, ainsi que toute l'équipe de la Talaudière, des services culturels. Conférence de Jean-Michel Stenner sur ses luttes ouvrières 45-48. C'est d'ici un instant sur le 895 de Dion. Bonne émission. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette soirée conférence organisée dans le cadre de la programmation culturelle de la Maison du Patrimoine et de la Bibliothèque. Nous accueillons ce soir Jean-Michel Stenner, qui va nous présenter une conférence illustrée sur les luttes ouvrières de la libération à la grève des mineurs 1948. Donc cette conférence se place dans la continuité d'une exposition qui est présentée à la Maison du Patrimoine et de la Mesure 1948. Mineurs en grève, qui a été réalisé par le GREMOS et les archives municipales de Saint-Étienne. Donc vous avez la possibilité de venir voir cette exposition donc à la Maison du Patrimoine jusqu'à fin mi-décembre. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vais laisser la parole à Jean-Michel.
Merci beaucoup. Bonsoir. Merci d'être nombreux à venir ce soir dans des conditions bien particulières. Elles sont aussi particulières pour moi parce que j'ai construit cette conférence avec pas mal de photos, surtout dans la deuxième partie. Et donc, il faut que j'arrive à manipuler sans trop me mélanger les pinceaux. Mais je vais y arriver. Alors, le sujet, les luttes ouvrières de la libération à la grande grève des mineurs de 1948. C'est l'idée de voir comment, dans l'histoire sociale française, cette période est tout à fait particulière. Vous savez que les luttes ouvrières ont toujours marqué toute l'histoire de l'industrialisation. On sait qu'il y a eu beaucoup de mouvements, par exemple, dans la région stéphanoise, dès les années 1840. Le phénomène n'est donc pas nouveau, mais néanmoins, c'est une période qui particulière parce que les ouvriers tiennent une place unique dans l'histoire sociale française, à la fois par les combats qu'ils mènent, qu'ils terminent quelquefois en vainqueurs, mais aussi en vaincus. C'est d'ailleurs par là qu'on achèvera cette conférence. Le contexte de cette conférence, c'est comme vous l'a indiqué Karine, c'est celui d'une exposition qui a été construite par les archives municipales sur la grève de 1948, qui est un sujet sur lequel je travaille avec quelques camarades depuis une dizaine d'années, 12 ans exactement, depuis 2008, à partir d'un fonds photographique qui est justement repris en partie dans cette exposition, le fonds des photographies de Léon Lepons. Il a donné lieu, j'y reviendrai dans un moment, à un ouvrage qui est paru en 2011. Et là-dessus, les archives municipales ont eu l'intention de faire une exposition itinérante qui a déjà circulé pendant 5 ou 6 ans. Et cette exposition a été entièrement repensée depuis 2 ans. Et c'est celle-là que vous pourrez voir au musée dont s'occupe Karine, le musée de la mesure et du patrimoine. Si je ne me trompe pas, même que ce soit du patrimoine et de la mesure. Alors, pourquoi ce cycle, en fait, il faudrait le concevoir, non pas simplement de la libération jusqu'à 1948, il faudrait essayer de le voir de façon un petit peu plus large, depuis 1935 jusqu'à 1948. Mais là, il y a un vrai cycle d'histoire ouvrière et de lutte ouvrière. Les événements de 1936, que vous connaissez tous, j'imagine, constituent la première étape de ce cycle. Mais tous ces événements, 1936, 1940, et puis les événements dont je vais vous parler plus longuement, 1945, 1947, 1948, leur particularité, c'est de voir que le monde ouvrier est au premier plan, et la classe ouvrière, pour reprendre un vocabulaire plus politique, est au premier plan. 1936, c'est bien sûr l'irruption de la question ouvrière, non pas dans le débat politique, mais comme un objet historique particulièrement exceptionnel. Pour la première fois, certains témoignages le montrent, le patronat a eu vraiment très peur de ce qui se passait. Et il faut ne pas oublier que 1936 s'inscrit dans le sillage presque immédiat des événements qui ont fait basculer l'Union soviétique dans le régime bolchévique. Et donc, il y a en arrière-plan, depuis 1936 jusqu'à 1948, à la fois une fascination de ce que pourraient faire les ouvriers et une crainte. Évidemment, ce n'est pas les mêmes personnes, mais c'est un peu cet arrière-plan que, dans lequel je voudrais me situer pour présenter ces événements. La deuxième date que j'évoquais, c'est 1940. L'État français, vous savez, insère dans sa devise le mot « travail », mais l'État français, c'est d'abord et avant tout un État anti-ouvrier par les mesures qu'il va prendre, qui sont vécues et qui sont même affirmées par le régime dans le fameux discours de Pétain le 17 juin 1940 comme une revanche sur 1936. Vous savez, on a trop joui, on a trop profité. Il faut maintenant se mettre au travail. Je rappelle que Vichy a interdit les syndicats, qu'il a, par la charte du travail, régi une nouvelle vision des rapports sociaux basée sur ce qu'on appelle le corporatisme et influencée par l'exemple du fascisme, et qu'il a instauré le service du travail obligatoire qui représente vraiment un symbole du fait que ce sont les ouvriers qui vont payer la facture de la défaite. Je pousse un peu le trait, mais c'est un peu ça quand même. De 40 à 44, face à cet état français, la résistance est évidemment un mouvement patriotique, mais elle peut aussi être, et elle doit aussi être vécue, comme un mouvement social, car si tous les ouvriers n'ont bien sûr pas pris part à la résistance pour plein de raisons que je ne vais pas développer ici, leur part dans la résistance est infiniment plus nombreuse que celle de certaines autres catégories, et notamment, De Gaulle lui-même l'a dit, que celle du patronat. Claire Andrieux, qui est une historienne de la résistance, a écrit cette chose que je vais vous lire maintenant. « Plus que dans les autres pays, la résistance en France est à la fois le parti de la réforme sociale et de la restauration républicaine face aux dictatures. Le programme du CNR, adopté à l'unanimité, se réclamait de la démocratie économique et constituante, de la démocratie économique et sociale, et prévoyait d'amples mesures de nationalisation. Je vais y revenir dans un instant. L'Assemblée nationale constituante, elle termine par là, librement élue en octobre 1945, a voté ces mesures à 85%. On peut considérer que ce vote a consacré la résistance comme mouvement social d'exceptionnelle ampleur. Et je rappelle aussi que les ouvriers sont nombreux à entrer dans les maquis à partir du mois de juin 1944 et qu'ils participent à différents mouvements insurrectionnels, notamment le soulèvement de Paris à la fin du mois d'août. Alors, juste quelques petites... Ah non, c'est par là qu'il faut que j'appuie. Voilà. Donc, le livre dont je vous parlais sur 1948, « La grève des mineurs », en amont, en fait, il y a ma thèse que j'ai publiée après celui-ci, mais que j'avais soutenue avant. Donc, j'ai publié sous le titre « Métallo-mineur Manuchard, ouvrier et communiste à Saint-Étienne ». L'idée, c'était de comprendre comment cette ville ouvrière, décrite par tous les élus depuis le XIXe siècle comme une ville ouvrière, comment est-il possible que cette ville n'ait pas eu de maire communiste en 1945 ? Alors, c'était mon point de départ. Mais en étudiant cette période, j'ai un travail que j'ai fait sur le vote ouvrier, j'ai rencontré ces événements que je connaissais un peu, mais pas beaucoup en fait, de 1947-1948. D'autres ouvrages que j'ai utilisés, alors les trois auteurs les plus au fait de l'histoire ouvrière française, Gérard Noiriel, Xavier Vignat et Alain Deverpe. Alain Deverpe qui travaille plus sous l'angle du travail. Et puis sur les mouvements sociaux proprement dit, donc, vous avez un ouvrage qui parcourt tout le 19e siècle et le 20e siècle, de Michel Pigenet et Daniel Tartakovsky. Le livre de Maurice Bedouin, qui est un des co-auteurs de notre livre sur le Pons, qui est paru il y a 2 ou 3 ans. Et puis ce livre de Robert Mancherini, Guerre froide, grève rouge. Alors, c'est intéressant ce livre parce qu'il a été édité une première fois en 1997 et l'auteur avait mis 1947-1948. Alors, quand j'ai lancé la recherche sur la grève de 1948, j'ai épluché tous ces livres. Et j'ai fait, si jamais vous lisez le livre, vous verrez un chapitre sur, que j'ai intitulé « La grève de 1948 a-t-elle eu lieu ?» parce que je me suis rendu compte que pour beaucoup d'auteurs, alors par exemple Pigenet qui écrit dans l'histoire des mouvements sociaux, c'est l'exemple type, on s'étale beaucoup sur 1947 et puis 1948, en 2 lignes, on passait. Et alors j'avais remarqué que ce livre de Mancherini, il avait dans le titre 47-48, mais il ne dit pas un mot de la grève de 1948. Donc j'ai écrit ça dans mon livre. Et j'ai constaté que l'année dernière, Mancherini avait refait une édition de son livre et qu'il avait supprimé l'année 1948. Bon, je ne sais pas si je suis responsable, mais peut-être que ça l'a un petit peu amené à réfléchir. Alors, je vais vous préparer, après cette longue introduction, vous proposer 2 temps. La libération comme mouvement social et puis ces grèves de 1947-48. Je m'attarderai plus finalement sur la grève de 1947, parce qu'il y a l'exposition, et puis il y a le livre, et que 47, c'est un mouvement qui a peut-être plus marqué finalement la mentalité collective, notamment à Saint-Étienne. Je vais essayer de vous montrer pourquoi. Alors, je ne vais pas trop tarder. La libération, c'est mon premier point, et je voulais simplement vous montrer par ce petit graphique que c'est vraiment le moment où, entre 1936 et 1954, la population active de l'industrie, qui n'a jamais été majoritaire, mais elle est en forte augmentation et elle est en majorité relative pendant ces années-là. Donc ce sont des années où le monde ouvrier est particulièrement visible, particulièrement important, et son importance, elle est accentuée par le fait qu'il y a un parti, le Parti communiste, qui se réclame du destin, j'allais dire, de la classe ouvrière. Donc 54, c'est le point culminant, mais on peut considérer que la libération, on est en pleine phase d'ascension, et c'est d'autant plus important que même dans la population industrielle, ce qui domine, ce sont les salariés de la production, les patrons et les employés étant en nombre très réduit. Alors, comme je le vous disais, certains auteurs, notamment Xavier Vignat, parlent de la centralité ouvrière. Alors, je pense qu'on peut se poser la question de façon double. Il y a une centralité ouvrière, mais il y a aussi une menace ouvrière. Et cette menace, elle est un peu, avec en arrière-plan, la révolution russe. Alors en 1945, c'est un petit peu particulier quand même, parce que la Russie, c'est un pays vainqueur, enfin l'Union soviétique, c'est un pays vainqueur, et on a effacé d'un coup certaines divergences, certaines polémiques sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais qui ont agité la France des années 38, 39, 41, la question du pacte germano-soviétique et tout ça. Tout ça, ça a été effacé par Stalingrad. Et en 1945, c'est pas la peine de discuter avec les membres du Parti communiste pour leur dire oui, mais en 38, en 41, etc. Non, non, Stalingrad justifie tout. Ça représente en 45, et on a du mal à se rendre compte aujourd'hui, le modèle soviétique représente un véritable espoir pour toute une partie de la population. Pas que pour les ouvriers d'ailleurs, mais comme ce modèle repose sur l'idée d'une république dans laquelle les ouvriers joueraient un rôle central, eh bien, c'est évidemment c'est ce modèle que l'on regarde. Du coup, espoir pour certains, mais crainte pour d'autres, c'est ce que dit Xavier Vignat. Hein. On est entre l'espoir et l'effroi. Et la question qui va apparaître plus ou moins en arrière-plan, c'est est-ce que la France est menacée de devenir une démocratie populaire à l'exemple de ce qui se passe. Alors, toujours pendant le déroulement de ce que je vais vous présenter, c'est-à-dire 47-48, on a des pays qui petit à petit basculent sous le contrôle de l'Union soviétique. Une chose est sûre, en tout cas, c'est que la France sort dans un très mauvais état du conflit. J'ai trouvé ces chiffres, je les connaissais un peu, mais je trouve que c'est intéressant de voir quand même à quel point on a reculé. La production industrielle qui se retrouve au niveau de celle de 1855, la production agricole, pardon, 1855, la production industrielle au niveau de 1890, c'est plus que de la décroissance. Donc, il y a une nécessité, un impératif, qui est celui de reconstruire le pays. Et pour reconstruire ce pays, eh bien, on a besoin des ouvriers. C'est ce qu'on va appeler la bataille de la production. Mais je vais revenir dans un moment. D'abord, je voulais dire que la libération est un mouvement exceptionnel, un mouvement social exceptionnel pour une première raison, c'est le retour à l'unité syndicale. Pendant la guerre, les accords de Péreux, en avril 1943 exactement, ont permis la réunification d'une CGT qui avait été heurtée et divisée par la grève de novembre 1938 et par le pacte germano-soviétique. C'est donc une CGT réunifiée qui connaît une vague d'adhésion sans précédent. Les chiffres sont toujours un peu incertains, mais on est au moins au-dessus de 4 millions d'adhérents. Et il y a un climat de syndicalisation qui profite beaucoup à un des deux courants de la réunification, qui est le courant qu'on appelle les ex-unitaires, qui est le courant qui est proche du Parti communiste. Et ce courant, eh bien, il va être au centre des événements dont je parle aujourd'hui. Mais la CGT est réunifiée, c'est très, très important, parce que ça crée, je vais vous montrer quelques images, un pôle d'attraction tout à fait exceptionnel. C'est un phénomène presque de physique, cosmique. Quoi. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un autre syndicat qui n'est pas produit d'une division de la CGT, c'est le syndicat CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens, qui a été créé en 1919 et qui lui aussi profite de ce mouvement, puisque la CFTC, qui représente à peu près 10% des effectifs de la CGT, est quand même passée de 500 000 adhérents en 1935 à plus de 700 000 en 1945. Donc oui, la vague de syndicalisation, elle concerne pas seulement la CGT. Deuxième raison qui font de cette libération un mouvement exceptionnel sur le plan social, c'est bien sûr le train de réforme qui est adopté par l'Assemblée constituante et puis par les premières assemblées législatives en 45, 46, 47. Alors, il y a bien sûr dans le domaine de la protection du travailleur la création de la sécurité sociale, qui est bien connu, mais je voudrais ajouter la loi du 11 octobre 1946 qui rend obligatoire la création de services médicaux dans toutes les entreprises, la loi du 30 octobre 1946 qui vise à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, le décret du 1er août 1947 qui crée les comités d'hygiène et de sécurité, donc il y a un vrai souci, une véritable réflexion ici sur la santé au travail. C'est aussi dans le domaine de la production, bien sûr, les nationalisations. Elles sont nombreuses, beaucoup plus qu'en 1936. Et surtout, l'intérêt pour la population ouvrière, c'est qu'elle commence à offrir aussi une certaine garantie de l'emploi. Ce sont les arrêtés Parodi-Croizat qui définissent les grilles de qualification du travail. Et c'est aussi un point qui va nous intéresser, la mise en place de statuts particuliers dans quelques corporations jugées stratégiques en 1945, à savoir les mineurs, le statut date du 14 juin 1946, et les dockers, le statut date du 6 septembre 1947. Voilà, donc la bataille de la production, c'est le troisième phénomène qui fait de cette libération un moment social exceptionnel. Alors, avant de parler de la bataille de la production, je voudrais évoquer quelque chose qui est souvent oubliée ou occultée, qui est le fait que dans certaines entreprises, au moins dès le mois de septembre 1944 et pendant 2 ou 3 ans, se forment des comités de gestion qui se substituent à la direction des entreprises, soit parce qu'elles ont disparu, soit parce qu'elles ont été destituées, soit parce qu'elles ont été emprisonnées, sous le phénomène historique de l'épuration. Donc les ouvriers, en quelque sorte, dans certains cas le plus connu, c'est celui de Berlière à Vénissieux, mais on a le cas d'une entreprise qui s'appelait L'Écrou à Saint-Étienne, où ce phénomène s'est produit. Donc, en quelque sorte, les ouvriers prennent en main, il y a un début d'autogestion, terme qu'on emploiera plus tard, ou de comité ouvrier, terme qui renvoie à ce qui a existé pendant la Révolution russe et au tout début des événements que connaît l'Italie après la guerre. Les entreprises qui sont gérées par ces ouvriers tournent plutôt bien et les administrateurs qui vont les récupérer un peu plus tard le confirmeront. Mais le problème, évidemment, c'est que le patronat a très peur de l'extension d'un tel phénomène. Il a très peur, mais en réalité, il le sait ou il ne le sait pas, mais en tout cas, il se rend compte très vite qu'il peut compter sur le CGT et le PCF qui veillent, qui n'ont pas du tout envie que se produise ce genre de problèmes qui sont difficiles peut-être à gérer. Le problème majeur, c'est la bataille de la production. Et alors, le moment clé, c'est Vasier, le discours que Maurice Thorez prononce à Vasier. Donc, le problème décisif de l'heure, c'est le problème de la production. Il faut produire, produire, produire. Hein, la récurrence du terme est bien connue. Et par ce discours, Maurice Thorez va placer les communistes en première ligne de cette opération. Mais c'est déjà le cas. Par exemple, si vous prenez la presse stéphanoise, vous verrez que dès la fin du mois de septembre 1944, Benoît Frachon est venu à Saint-Étienne pour tenir le même discours. Alors c'était la CGT, c'était pas le PC, mais la CGT, elle continue, elle est tout à fait dans cette ligne, puisque vous voyez le mot d'ordre de 1946 de son congrès, produire pour mieux vivre. Alors tout ça, c'est évidemment une mise en avant du Parti communiste, mais c'est aussi une mise au travail de ces cadres. La puissance syndicale de la CGT est un atout pour la réussite de la bataille de la production, mais son utilisation dans ce cadre l'expose aussi au risque d'une accusation de collaboration de classe. Donc voilà quelques images de Maurice Thorez à Vasier. Alors la propagande, évidemment, notamment dans la direction des mineurs, parce qu'on a du mal à recruter des mineurs en 1945-46. Vous voyez, vous seriez, je pense, tous prêts à les signer après avoir vu cette affiche en sortant de cette salle pour devenir mineur, parce que ça fait envie. De même que cette couverture de la revue Mineur qui paraît en janvier 47, où l'on voit que quand même mineur, c'est sympa, c'est cool. Hein, on fait un travail qui rend joyeux. Bon, la bataille du charbon donne lieu, par exemple, à certaines la reprise d'une tradition stéphanoise, des fameuses cavalcades. Donc ici, dans la rue Gambetta, en septembre 45. Alors il y a toute une série de chars, mais celui-ci il est assez typique. Hein. La bataille du charbon sera gagnée. On est un an après le passage de Frachon. Donc là, l'engagement des travailleurs, en tout cas des militants, semble tout à fait évident. Pour donner l'exemple, on a même Maurice Thorez, qui, vous le savez, a été quelques mois mineur dans sa jeunesse, qui redescend dans la fosse de l'Escarpelle, accompagné, quand même, le symbole est important pour les mineurs, du secrétaire de la Fédération, Victorin Duguay, qu'on a beaucoup vu en 48 à Saint-Étienne, et d'Auguste Lecoeur, qui est le bras droit de Thorez à cette époque. À Saint-Étienne, cas exceptionnel, qui fait aussi l'intérêt de l'étude de cette période pour la ville, c'est un des deux départements où il y a un préfet communiste nommé par le gouvernement provisoire en septembre 1944, Lucien Mongeauvy, qui est un ancien métallo et qui est un défenseur vraiment très, comment dirais-je, zélé de la politique de la production. Alors, aussi, deux images pour vous montrer quand même que... Enfin, cette image pour vous montrer que bon, les rassemblements, donc c'est la place des Ursules, hein, il n'y a pas le parking à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a quand même du monde. Hein, on voit bien que les syndicats mobilisent. Et c'est très ordonné. Alors, si vous lisez la presse, vous verrez, on a des listes, on dit à tel endroit... à telle corporation, à tel autre endroit, les mineurs, à tel autre endroit. Et chacun se range bien sagement sous les pancartes qu'on lui a indiquées. Alors, derrière tous ces discours, comment les ouvriers vivent-ils cette période de la reconstruction ? C'est un moment de paix sociale, on peut le dire, mais c'est sans doute un moment de paix sociale contrainte. En réalité, pour les ouvriers, la vie est particulièrement dure, peut-être même selon certains témoignages, plus dur qu'elle ne l'a été pendant la guerre. Alors, sans doute des témoignages qui, comment dirais-je, reflètent la déception, parce qu'on pensait que les Allemands, une fois partis, tout allait mieux tout de suite. Mais oui, ça dure quand même, ça dure longtemps. L'évolution de la ration de pain, 350 grammes par jour et par personne en janvier 45, on tombe à 200 en octobre 47. Et le pain est quand même la base de l'alimentation à l'époque. Aujourd'hui, on s'en contente très largement, mais ce n'est pas du tout le cas à l'époque. Donc, problème de rationnement, problème de pénurie, pénuries qui sont en plus très irritantes parce qu'elles deviennent de façon récurrente, tournante. Par exemple, en 1947, il n'y a pas de viande au mois de mars, puis elle revient à nouveau au mois de juin, et puis elle disparaît totalement à l'automne. En mois de mai, il n'y a pas de pâtes. Mais elles sont de nouveau là au mois de juin. En février, de février à avril, il n'y a pas de riz. Et puis, le beurre est introuvable en mois de mai. Et la ration de certains aliments de base est parfois inférieure à celle de 1945. On l'a vu pour le pain, c'est vrai aussi pour les pâtes, pour la confiture, pour les matières grasses. Deuxième problème, c'est l'inflation. L'inflation qui atteint un maximum, un record dans le second semestre de l'année 46, on dépasse les 50%. Et l'inflation, aujourd'hui on ne sait plus ce que c'est, mais certains d'entre vous ont quand même ce souvenir, au moins pour les années 70, eh bien l'inflation, ça ronge souvent beaucoup plus le budget des plus modestes, des plus pauvres, et ça crée donc le fait qu'en 1947, souvent pour les ouvriers, le revenu est inférieur à ce qu'il était en 1938. Donc ça ne donne pas vraiment toujours envie de travailler comme un forcené pour la bataille de la production. Et comme dit Vignat, c'est donc un des problèmes de cette bataille de la production, elle ne s'accompagne pas d'une amélioration de la condition ouvrière, et c'est même le contraire. Du coup, eh bien, les mobilisations, les premières vraies mobilisations sociales qu'on va voir, eh bien, c'est autour du pain, autour de l'alimentation, autour des subsistances. Quand même 690 manifestations en 3 ans, de novembre 44 à octobre 47. Et ces manifestations, eh bien, la CGT et le PCF ne peuvent pas complètement les occulter quand même. Alors la méthode qui est suivie, c'est de confier ces manifestations aux femmes. Après tout, c'est les premières concernées. Vous savez bien, c'est elles qui font la cuisine, c'est elles qui font les courses. Alors, je dis ça un peu de façon provocatrice, mais c'est exactement ce qui ressort d'un article que j'ai trouvé dans le Patriote de Saint-Étienne du 23 juillet 1946. Il est fait allusion à une manifestation des femmes de l'Union des femmes françaises. L'Union des femmes françaises, c'est une organisation qui vient d'être créée. Elle est née dans la clandestinité sous le nom de Comité des femmes françaises. Et elle est transformée en Union des femmes françaises en début 1946. Elle existe toujours, mais elle n'a pas du tout le rôle de premier plan qu'elle avait à l'époque. Alors, le journaliste du Patriote relate certaines manifestations et il le relate de façon assez caractéristique. Les femmes sont au premier plan, dit-il. Elles savent mieux que les hommes ce qu'est la paye, ce qu'est la valeur d'une paye d'ouvrier, d'une mensualité d'employé. Elle se présente sur le marché du Soleil, quartier essentiellement ouvrier. Les tomates se vendent 35 francs le kilo. Elles font ramener le prix à 29 francs 15. Deux jours après, c'est à Carnot. Le 8 et le 11 août, elles sont sur les marchés du Soleil et de Bellevue. Puis à Bizillon et à Saint-Roch, puis à Carnot et Jacquard, approuvées par les ménagères qui adhèrent au comité 11 à Carnot, 80 à Jacquard, le 16 août. On sent bien que le plus important, c'est finalement les adhésions. Bon, qu'en est-il en réalité? C'est surtout l'action du préfet qui a suivi la politique qui avait été déterminée par Léon Blum dans le court passage au gouvernement de Léon Blum début 1946, de blocage des prix qui a eu pendant un temps quelques effets, mais ça n'a pas été durable. Deuxième exemple, le marché des Ursules est l'un des plus animés. Le 3 septembre, elle se présente, discute, marchande. Du coup, la baisse des prix est générale. 4 francs sur les pommes de terre, 7 francs sur les choux, 5 francs sur les poireaux, 15 francs sur les haricots, 5 francs sur les tomates. Bon, on ne sait pas quel était le prix de départ, mais enfin bon, il y a une baisse. C'est ça qui est quand même important à dire. Et c'est donc une incitation à l'action directe, quelque part, qui rappelle d'ailleurs certaines actions des origines du mouvement ouvrier dans le 19e siècle. Mais en même temps, tout cela montre que le Parti communiste est un peu en porte-à-faux. Alors, j'ai inversé les diapos, donc je vous montre celle-ci d'abord. Donc, un passage du discours de Thorez Avazier, que j'ai cité tout à l'heure, où après avoir appelé à la production, il fait tout un laïus sur, quelque sorte, des leçons de morale aux ouvriers. On s'absente trop facilement pour un oui ou pour un non, parfois pour une égratignure, c'est un scandale. Voici un autre cas, on m'a signalé l'autre jour que dans les puits de l'Escarpelle, une quinzaine de jeunes gens des galibots ont demandé de partir à 6 heures pour aller au bal. Bichette. Je dis que c'est un scandale, inadmissible, impossible. Alors évidemment, ça, ce genre de discours, ça ne met pas forcément de l'eau dans les... Enfin, de l'huile dans les rouages entre le PC et les ouvriers. Et au début de 1947, la tension commence à devenir très forte. Mais vous voyez, déjà en 1945, les mineurs sont susceptibles, dit un rapport des renseignements généraux, ils se froissent lorsque leur syndicat prend des mesures sans les consulter. Un fait est certain, ils n'acceptent pas la propagande communiste à produire pour la France. Alors, on va assister à un retournement spectaculaire, c'est donc le deuxième temps, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, oui, peut-être je te donne dans les temps à peu près, de mon propos, un retournement spectaculaire en 1947. Alors, quelques chiffres pour vous situer la question. En 1946, les chiffres sont très précis, il y a eu 528 grèves dans tout le pays, y compris un petit atelier de Saint-Étienne qui se met en grève, c'est inclus là-dedans, 180 000 grévistes. En 1947, 2285 grèves et 2 998 000 grévistes. Donc là, on voit que tout d'un coup, ça devient extrêmement sérieux. Et c'est sans doute ce retour brutal de ce qu'on peut appeler la lutte de classe dans les rues qui a frappé le plus les contemporains. Alors, quand vous lirez, ou si vous avez déjà lu, vous le savez, des livres sur l'histoire de la Quatrième République, on met généralement en lien cette montée de la conflictualité avec le retour, l'éviction des ministres communistes qui étaient membres du gouvernement depuis 1944 et qui sont révoqués par Paul Ramadier le 4 mai 1947. Donc on y voit une attention politique. Robert Schuman parlera d'un chef d'orchestre clandestin au mois de juin 1947. En fait, la réalité est plus complexe. J'ai essayé de vous le montrer brièvement par les documents précédents. Le mécontentement était là depuis un certain temps. Depuis le début de l'année 1947, des grèves sauvages ont lieu dans différentes corporations. Il y a eu une grève importante dans le livre début 1946. Il y a eu aussi une grève importante dans la Poste pendant l'été 1946. Donc il y a quand même quelques signaux qui ont fonctionné. Mais c'est vraiment ce mouvement de 1947 qui évidemment enfle à partir du mois de mai 1947. Mais je vous donnerai un autre indicateur qui est assez intéressant. C'est les résultats des élections à la Sécurité sociale. À l'époque, on votait, c'était une des mesures prises dans la création de la Sécurité sociale, pour les administrateurs, elles ont lieu le 24 avril, c'est-à-dire une semaine avant la révocation des ministres communistes. La CGT obtient 62,3% des voix, ce qui est beaucoup. La CFTC, 26,3% des voix, ce qui montre déjà que le rapport s'est un peu infléchi en faveur de la CFTC. Et surtout, le nombre de voix qu'obtient la CGT, 3 280 000, eh bien, il est inférieur au nombre de syndiqués de la CGT. Donc il y a un problème. Il y a un vrai problème. Alors, trois moments saillants dans cette vague de grève, de ce que certains auteurs ont appelé une année terrible. D'abord, en mai et juin, la métallurgie, les charbonnages, l'EDF, la SNCF sont concernés. Surprenant, une grève bloque complètement le port de Concarneau du 21 mai au 3 juin. Et cette phase... donc qui est de mai et juin, eh bien, il faut dire qu'elle a été un peu amorcée par une grève très importante qui a eu lieu aux ateliers Renault, qui a commencé à la fin du mois d'avril, une grève qui a été déclenchée contre l'avis de la CGT par des militants d'un petit groupe trotskiste qui a donné ensuite, dans sa généalogie, le mouvement Lutte ouvrière, si je ne m'abuse. En septembre, des mouvements éclatent à nouveau dans de nombreuses villes industrielles, Clermont-Ferrand, Saint-Quentin, Rouen, Montbéliard, Sochaux, Saint-Étienne, Lyon aussi sont concernés. Mais des affrontements, c'est à partir du mois de septembre 1947 qu'on a un mouvement interprofessionnel, une grève générale, on dira en langage journalistique, qui paralyse le pays avec 2 millions de grévistes qui touchent donc les cheminots, les métallurgistes, les dockers, les mineurs. Et surtout, la grande nouveauté, c'est que ce sont des mouvements extrêmement tendus qui donnent lieu à des affrontements et qui donnent lieu à des morts. Alors, des affrontements ont lieu à Marseille, Valence, vingtaine de morts au total pendant cette période. Très inquiétant pour le gouvernement. Certaines unités de CRS fraternisent avec les manifestants. Le gouvernement évoque des cas de sabotage. Le 24 novembre 1947, Jules Moc devient ministre de l'Intérieur et va réorganiser complètement les forces de l'ordre. Je ne sais pas s'il faut que je rebranche. Parce que j'ai peur de... Excusez-moi. Bon, alors c'est bon. La question des CRS, je vais en parler à propos de Saint-Étienne. On oublie souvent que CRS, ça veut dire Compagnie Républicaine de Sécurité. Et que ces CRS, ils ont été créés à l'automne 1944 avec des anciens résistants, beaucoup des ouvriers qui étaient dans ce qu'on appelait les milices patriotiques, qu'on a amalgamés. Je ne sais pas si ça va tenir. Voilà, comme ça, qu'on a amalgamé à d'anciens GMR, les groupes mobiles de réserve du régime de Vichy. Et ces CRS, eh bien, ils ont des syndicats, ils élisent des délégués, ils font grève même quelquefois. Hein. C'est arrivé et ça va arriver à Saint-Étienne et à Valence, à Clermont-Ferrand, à Marseille. La situation est quand même sérieusement inquiétante pour le gouvernement. Le 29 novembre 1947, donc dans cette période qui va durer jusqu'au 10 décembre, il y a une grande manifestation à Saint-Étienne qui est organisée par la CGT. Alors, je vais vous en donner quelques indications. C'est ici que je tourne, voilà. Alors, cette manifestation, elle est organisée sur la base de militants qu'on fait venir en car. Certains viennent à pied, de Londaine, d'Ugier et de Roanne. Donc il y a trois colonnes qui vont converger vers la Bourse du Travail. Ici, il y a la colonne qui arrive de d'Ugier. Donc vous reconnaissez bien sûr le cours Victor Hugo, les Halles, la place des Ursules qui n'a pas le parking, mais où il y a les grandes tentes des commerçants. Cette colonne, petite anecdote, je l'ai appris il y a très peu de temps de la part d'un collègue qui travaille avec moi pour le Métron, qui est en train de rédiger un livre sur Louis Vianney, qui a été secrétaire de la CGT. Il se trouve que Louis Vianney était élève au lycée Fauriel en 1945, 46, 47, 48. Donc il est en quatrième, je crois, en 47. Et il raconte que son prof de maths, qui s'appelait Roger Laporte, qui est un ancien résistant, quand il a entendu la manifestation arriver, il a ouvert les fenêtres, il a dit « Messieurs, la France passe ». Montrer un peu l'atmosphère. Quoi, cette manifestation, donc, débute bien sûr par un meeting. Ici, on est du côté sud, donc avec sans doute des gens qui viennent de Londres. Petite idée quand même de la foule, côté sud et côté nord. Oui, donc, la CGT dira le lendemain qu'il y avait 50 000 manifestants. Mais même les RG admettent qu'il y a au moins 25 000 personnes. Alors, une fois les discours tenus, remarquez au passage, donc ce sont des photos de Le Pons, hein, remarquez au passage que Le Pons était un photographe qui travaillait avec des plaques de verre. Donc, quelquefois, ces plaques, elles se brisent, donc ça donne ce trait oblique que vous avez ici. Alors, la manifestation se dirige ensuite vers la préfecture. Alors, en tête, vous ne pouvez pas les voir ici, mais l'homme au chapeau... C'est Marcel Thibault. À côté de lui, il y a Marius Patineau. Enfin, il y a tout le staff du PC et de la CGT. Et elle descend vers la préfecture. Je ne sais pas trop ce qu'on va y faire parce qu'il y a quand même... J'allais dire une bêtise. Il n'y a plus le préfet. Montjovis a été révoqué en août 1947. Ça change certaines choses dans les rapports entre la CGT et la préfecture. Et voilà ce qu'on trouve, évidemment, quand on arrive à la préfecture. Colère des manifestants, les CRS, gardes mobiles ne sont pas très très chauds pour eux. Mais enfin bon, ça finit par quand même, on pousse, on veut rentrer dans la préfecture et ça finit par des gaz lacrymogènes. Et voilà, Le Pons, là, il a eu son heure de gloire parce qu'il n'a jamais été aussi près en 1948 dans les manifestations. Mais là, on est en plein centre-ville. On est en plein centre-ville et puis, bien sûr, la presse va faire état de la casse, des blessés et voilà des casseurs. C'est déjà un mot d'ordre qui revenait régulièrement en 1948. Il y a une petite réplique de cette manifestation. Alors oui, quelques mots quand même. La manifestation, elle avait plus ou moins pour objectif. Tous les témoignages, j'ai interrogé beaucoup de gens qui ont elle a du mal à répondre. Bon, beaucoup sont morts aujourd'hui. Théo Vialmassa, Camille Pradet, Joseph Sandels, avait-elle ou non l'intention d'attaquer la préfecture ? En tout cas, le préfet, lui, il en est persuadé. Et on a des témoignages. Il y avait par exemple, à l'intérieur de la préfecture, le député démocrate chrétien Barthélémy Hott qui a raconté que le préfet était persuadé qu'on allait le pendre haut et court. Ce sont... D'après ce qu'il m'a dit, d'après ce que m'ont dit beaucoup de militants, ce sont les ordres de Théo Vialmassa qui ont fait en sorte que la manifestation se disperse. Elle ne se disperse pas complètement parce qu'on a pris d'assaut deux ou trois automitrailleuses, on est allé jusqu'à la gare. Enfin, ça s'est terminé un peu comme ça, sans qu'il y ait plus de casse, heureusement. Le 5 décembre, c'est autre chose. Une semaine après, le mouvement est déjà en train de décroître. Il y a une certaine reprise du travail, alors notamment chez les traminots. Et là, ça énerve beaucoup les grévistes. Hein. C'est la fameuse lutte contre les jaunes. Vous voyez, ces jeunes gens-là, qu'est-ce qu'ils vont en train de faire ? Eh bien, hop, ils vont renverser le tram. Et on le voit ici en bas. Là. Et donc, ça, évidemment, ça provoque l'intervention de la police, des gardes mobiles, et la rue Gambetta est devenue très lacrymogène. Le résultat, c'est incontestablement un très lourd échec pour la CGT et pour le PCF. Plus de 1300 arrestations, beaucoup de condamnations. Alors, entrave à la liberté du travail, c'est le grand argument, le grand chef d'inculpation, sabotage, violence. C'est aussi l'épuration anticommuniste dans les administrations. C'est un effondrement des effectifs de la CGT. Et c'est peut-être sans doute le plus grave, une scission syndicale avec la création de la CGT Force Ouvrière. Donc on retombe dans la division syndicale qui avait été un peu effacée en 1945. Alors, ces grèves insurrectionnelles, donc, elles vont marquer un temps d'arrêt. Si, je pourrais dire quand même que je l'ai un peu étudié dans ma thèse, Il y a des rapports de police qui montrent alors, les effets de la nomination de Jules Moc. Parce qu'en décembre 1948, à partir du 10 décembre jusqu'au 15 janvier, c'est-à-dire pendant les fêtes de Noël, eh bien, il y a des nouvelles compagnies de CRS qui ont été formées. Alors, il en a dissous plusieurs. Il en a envoyé des nouvelles. Alors, elles font un ratissage systématique des quartiers ouvriers, alors notamment derrière la Bourse du Travail, dans le quartier Tarentaise, et un ratissage qui vise aussi beaucoup les travailleurs immigrés que, bien sûr, on accuse d'être responsables de tout ce qui s'est passé. Alors, certains font une lecture très politique qui prend en compte le contexte international, et je crois qu'on ne peut évidemment pas l'évacuer. C'est le début de la guerre froide, c'est l'adoption et la mise en œuvre du plan Marshall, c'est le blocus de Berlin, c'est la création par les soviétiques du Cominform en septembre 1947. Et tout ça, ça fait... je dis une bêtise, c'est en 1948, mais en septembre 1947, c'est le blocus de Berlin, c'est le début de la, de la tension guerre froide qui va diviser le pays, et ce jusqu'en 1989. En tout état de cause, le bilan, c'est une lourde défaite, je viens de le montrer, une lourde répression, mais le malaise ouvrier subsiste. Et en 1948, on a de nouveau des mouvements, on a de nouveau des grèves. Et la conflictualité de 1948, elle demeure grande, moins grande qu'en 1947, mais elle demeure grande. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est la corporation des mineurs qui l'a incarnée à elle toute seule, en répondant à ce qu'il faut bien appeler une véritable agression du pouvoir, ce sont les fameux décrets Lacoste. Le 18 septembre 1948, les décrets Lacoste remettent en cause le statut des mineurs, avec donc la suppression de la gestion des caisses de secours par les ouvriers, la remise au travail obligatoire des travailleurs atteints de la silicose, la diminution des indemnités maladie, la réduction des pouvoirs du délégué mineur. Ça ira plus loin puisque beaucoup de délégués mineurs ont été révoqués après la grève. La suppression de l'accord de la commission paritaire pour les sanctions disciplinaires. Et alors, c'est là qu'on va retomber sur un peu ironie de l'histoire. Ces sanctions disciplinaires, elles touchent les retards, l'absentéisme. Ce que Torres dénonçait en 1945. Mais oui, mais en 1948, Torres, il est avec son collègue... non pas Lacoste, mais le cœur, il est du côté des mineurs et il est contre ces mesures de Lacoste. Il faut rajouter quand même une baisse des salaires, gonflé quand même quand on sait que ce que représentait le pouvoir d'achat, le paiement à la tâche, qui est aussi en réalité une vraie baisse des salaires, parce que pour arriver au quota fixé, il faut souvent se tuer à la tâche, hein. La mise au pied des mineurs absentéistes, la réduction des personnels administratifs. Eh bien, cette grève, elle va durer 7 semaines. Elle commence le 4 octobre. Et c'est, un moment clé dans l'histoire de l'histoire sociale et ouvrière française, parce que, c'est mon point de vue en tout cas, c'est le moment où la centralité du monde ouvrier dans le débat politique va basculer. Alors, cette grève, c'est Léon Le Pons qui l'a suivi à Saint-Étienne. Il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Je signale au passage que je viens de terminer avec un des collègues qui était avec moi sur Le Pons, un livre sur le passage de Willy Ronis à Saint-Étienne, qui est venu pour les obsèques de Barbier. Et il a fait un reportage tout à fait passionnant qui nous permet de compléter et de modifier certaines choses qu'on avait vues à propos de ce que dit Le Pons. Alors Le Pons, il immortalise quelques scènes. Il immortalise d'abord la résistance, cette fameuse scène de la Béroudière, où la figure du délégué mineur ici présent. Alors je ne sais pas si je fais comme ça. Ah oui, ça se voit, ça marche. Donc ici, voilà, délégué mineur, Hervé Maritain. Ici, vous avez le commissaire de police Beretti et un colonel des gardes mobiles. Ou de la gendarmerie, enfin de guerre mobile, oui. Et donc, l'objectif, c'est, après le 18 octobre, les forces de l'ordre ont reçu l'ordre de reprendre tous les puits du bassin de la Loire. eh bien, Maritain a dit, il n'est pas question, on ne vous laissera pas rentrer, ou sinon, vous, ça va mal se passer. Et petit indicateur quand même, on est à la Ricamari, donc il y a une certaine mémoire historique par rapport à ce qui s'est passé au Brûlé en 1869, et l'arrivée de la police a été immédiatement signalée par coup de sirène, et donc la population est arrivée, vous voyez, on a des enfants, on a des femmes qui sont venues voir se mettre un petit peu au courant, et là, le commissaire de police et le colonel, eh bien, ils vont penser que c'est peut-être plus judicieux de reculer, et on va laisser la Béraudière occupée par les mineurs. Mais ce n'est pas le cas au Treuil, qui est repris d'ailleurs, qui avait été repris la veille. Ce n'est pas le cas à Roche-la-Molière, où on reprend et où on dégage les barrages au Puy-Charles à peu près au même moment où les forces de l'ordre sont à la Béraudière. Ce n'est pas le cas non plus à Firminy, où il y aura donc manifestation et tir à balles réelles le 22 octobre 1948, avec la mort d'Antonin Barbier. Donc une grève qui montre la détermination du gouvernement et qui va marquer une lourde défaite. L'hommage à Barbier, immortalisé aussi par Léon Le Ponce. Cette photographie, je la trouve particulièrement intéressante parce qu'elle signe en quelque sorte le clap de fin, c'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de monde, et en même temps cette foule qui écoute l'orateur à côté du puits Couriot, elle semble écrasée par le poids du crassier en arrière-plan, comme si on pouvait y voir le symbole de l'échec. Fin du mouvement le 29 novembre, on n'a rien obtenu, rien. Et par contre, si, on a obtenu une très lourde répression. 557 personnes entendues par la justice à Saint-Étienne, 419 incarcérés. Donc, ce qui vous donne un taux assez impressionnant d'inculpation et de mise en cause. Et alors, c'est mon collègue Maurice Bedouin qui a fait les calculs. Il a montré que, en fait, la justice avait été beaucoup plus dure dans la région stéphanoise que dans les autres bassins, trois fois plus de condamnés en proportion de l'effectif, bien sûr, à Saint-Étienne que dans le Nord, presque six fois plus qu'en Lorraine, et puis beaucoup de peines de condamnés qui sont condamnés à des peines de prison ferme. Alors, cette séquence que je viens d'évoquer, je vais conclure maintenant, eh bien, elle se traduit par une défaite ouvrière et par une défaite syndicale, avec l'effondrement des effectifs syndiqués. Alors, les chiffres pour Saint-Étienne sont approximatifs, mais enfin, 95 000, on n'est pas très loin de la vérité en 1945, on tombe quand même à 25 000 en 1950. Et puis, je vous ai donné les chiffres que cite Vignat pour le Doubs. On a une division par trois entre 1947 et 1950. Et derrière les statistiques, des tragédies individuelles et familiale. Deux cas que je voudrais évoquer ici. Le cas de Frédéric Souvignet. Frédéric Souvignet, c'est un militant, secrétaire de la Fédération régionale des mineurs, malade. Et, vous voyez, il est ici, là. Et très à l'écart, très discret. Il est en train d'écouter avec ses collègues du Puy du Treuil. C'est évidemment avant l'arrivée des forces de l'ordre. C'est aux alentours du 15 octobre. Eh bien, le discours que fait Joseph Guignan. Frédéric Vignet va être révoqué et il s'est retrouvé sans travail. Un peu, d'après ce que m'a dit son fils, abandonné par les cadres du parti, avec une certaine amertume. Il va finir sa vie assez tôt, puisqu'il est mort en 1957, il est né en 1910. Il a fini sa vie comme marchand des quatre saisons au marché de Chavanel. Le deuxième cas, c'est celui de Maritain, que j'évoquais tout à l'heure. Alors, on fête sa libération le 5 mai 1949. Donc, il était en prison depuis le 15 novembre 1948. On fête sa libération. Mais Maritain, il va galérer beaucoup lui aussi. Donc, il est révoqué de ses fonctions de délégué mineur. Et il va être successivement conducteur d'ambulance, gardien de nuit dans une imprimerie, puis chauffeur-livreur pour l'ENAF. Donc, il finit sa carrière comme ça. Moi, Mariton, il avait pour lui d'être un joyeux dri et un musicien. Ça l'a sans doute, ça lui a conservé pas mal le moral. Alors, quelques conclusions, s'il me reste un peu de temps, Karine. Oui. Quelques conclusions. Ben, je dirais que ces mouvements constituent un véritable tournant historique. Je crois qu'on peut dire vraiment qu'en 1948, j'emploie cette expression qui fait un peu rigoler, mais c'est la fin de l'après-guerre. L'après-guerre, c'est donc les Allemands, sont, c'est la libération de Paris, août 44, tout ça. Il y a une période que Auriol a appelé le provisoire. Il faut sortir du provisoire quand on discutait des institutions de la 4e République. Ben, ce provisoire, il est terminé pour les institutions début 47, mais la véritable fin d'après-guerre pour moi, c'est ces grèves, ces mouvements de 1947-48, parce qu'ils marquent la fin de l'union nationale qui avait été caractéristique de la résistance. C'est aussi la fin de la centralité ouvrière. Certes, les ouvriers resteront très importants dans la société française, mais l'impact sur le plan politique est beaucoup moins fort, au moins jusqu'aux événements de mai 68, où là, on réactivera, un certain grand homme à képi réactivera la crainte du monde ouvrier et du communisme. Les grands perdants, deuxième point que je voulais dire, les grands perdants, c'est bien sûr les ouvriers et leurs organisations. On peut peut-être parler d'une occasion manquée, si peut-être, on peut faire un peu d'uchronie, c'est réécrire un peu l'histoire, si on avait peut-être essayé de trouver un terrain d'entente, de discussion, peut-être qu'on aurait pu imaginer une évolution beaucoup moins conflictuelle, et les acquis de la libération auraient peut-être été plus durables, parce que finalement, bon, on en parle aujourd'hui, mais il y en a beaucoup qui ont été écornés après 1948. Deuxième grand perdant, je crois, c'est la République. La République, parce que elle sera finalement emportée par son impuissance face aux problèmes coloniaux, mais en 47-48, elle a certainement perdu la confiance dans la grande masse des ouvriers, qu'ils soient communistes ou non communistes. Parce que cette politique de répression, surtout celle de 48, elle a vraiment été vécue comme une politique anti-ouvrière. Ce qui pose bien sûr la question de la violence. Pourquoi la violence surgit-elle à ce moment-là? Est-ce que c'est un piège tendu par le gouvernement? C'est la thèse évidemment, qu'agitent les partisans de la CGT, enfin les historiens de la CGT et du PCF. Est-ce qu'il ne faut pas y voir aussi un héritage de la clandestinité, de la guerre? Moi, j'ai vu dans le 5 décembre une espèce de frustration chez les plus jeunes. Ce sont des gosses de 17, 18, 20 ans qui s'amusent à renverser ces trames, comme s'ils jouaient un petit peu à la guérilla que leur grand frère avait pu connaître en 43-44. Et puis, bien sûr, le contexte international a joué son rôle, mais c'est un rôle dans lequel la part de la propagande est importante. Pour la droite, il s'agissait de mouvements téléguidés par Moscou, et c'est une droite qui va jusqu'à la SFIO, hein, quand même. Pour le PC, la répression, c'est le signe de la soumission des dirigeants français à Washington. Je crois que les uns et les autres adoptaient une vision assez binaire, un peu caricaturale, et l'historien ne peut pas se satisfaire d'une vision aussi simpliste. Voilà, je vous remercie.